Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 3 mai 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec toute l'information à propos des dernières nouveautés paramilitaires.
Et suivi de...
Ça c'est du sport, toutes les informations en direct des tribunaux et de la perte des points du PSG.
Et ensuite,
Zarma Farah, toute l'information en direct du reggae et du grand concours de roulage de... Pardon. Suivi à 17h de Ça c'est de la bonne viande, c'est de la musique, 18h Big Bang, 19h Happy O, 20h Stéto Experience, 21h39 Love et à 23h le potager. J'ai failli trébucher, je crois, non ?
Ah, tu l'as fait, je crois, peut-être.
Ah, merde ! Heureusement, aujourd'hui, je crois que je vais remettre un petit peu d'ordre et rappeler que cette radio est une radio d'opposition municipale puisque tout le monde est en pleine extasie autour de mai 68. On va remettre un petit peu d'ordre et rappeler des frérots, ceux qui viennent de la droite, hein, le canuet, tout ça. Non, le canuet était de gauche, enfin, je sais plus. Enfin, bref, aujourd'hui, c'est une spéciale Iron Man. Ça s'appelle un plantage, voilà, ça arrive.
C'était trop bien, la tronche, je disais aussi.
Julian Clark in La Cavalry.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit. S'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Je prendrai la route, bérailleux coûte que coûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage. Et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie.
Julien Clerc avec son premier vinyle 45 tours qui vient de sortir dans les bacs en mai 68. Oui, parce que on avait dit qu'on faisait une programmation musicale exclusivement orientée de mai 68 pendant tout le mois de mai sur le supplément week-end. Néanmoins, on se calme. Bon, alors primo, le lecteur CD, c'est pas une fabrication Stark, hein, sinon il l'aurait pas planté. Mais surtout, du mai 68, eh ben on va en bouffer sous le règne de ces médias gauchistes. Pour que les jeunes s'extasient sur ce qu'ont loupé les vieux jeunes. 40 ans après la première tentative pitoyable de faire capoter leurs examens de fin d'année, certains agitateurs professionnels et préposés au poste vont même jusqu'à aller au cœur de la conscience française, chez Michel Drucker, pour refaire une révolution dans un canapé rouge. C'est vrai qu'étymologiquement, une révolution, ça n'est rien d'autre qu'une trajectoire pour revenir au point de départ. Mais les jeunes vieux en question étaient trop occupés à créer des flash mobs et des expositions d'affichistes impromptus plutôt qu'à s'intéresser au progrès de l'astronautique. On dit le héros de cette jeunesse-là, c'est à la fois Che Guevara et Kennedy. Mais je m'insurge! Vous savez ce qu'il a fait en politique étrangère? John Kennedy, je parle pas du paysan qui est allé barouder en Afrique et en Amérique du Sud. Je veux dire, John Kennedy, à part plaisanter en allemand « Erbin Erbaliner », bah la crise des missiles avec Cuba et le début de l'interventionnisme au Vietnam, quand même. Et encore, je vous parle pas de son plan secret d'installer des bases militaires sur la Lune qui a malheureusement été éventé. Pressentant les dangers de la chienlit qui allait venir tenter plus tard de vainement faire basculer la France dans le communisme, il a demandé à ses experts du Pentagone de concevoir une arme parfaite dans la lignée du Captain America qui à l'époque était commissionné par Roosevelt. C'est ainsi que le caporal Stanley, déjà tenant la philosophie folle amour pour la création d'une race de Zeroman, proposa la création d'une armure laissée sous contrat exclusif à un petit fabricant d'armes de l'Oregon. C'était en 1963, et heureusement pour contrebalancer l'influence sournoise sur notre jeunesse actuelle des commémorations du premier bisou de papa-maman, qui bronzait sur les pavés de la rue de la Pomme, de vaillants propagandaires du surhomme décident de sortir Iron Man en grand écran. Car c'est un exemple à suivre, Tony Stark. Il est riche comme Bill Gates, noceur comme un rappeur, intelligent comme MacGyver, mais néanmoins héroïque comme Rambo. Un homme qui œuvre altruistement pour la politique étrangère de son pays, au point de payer de sa personne pour conduire un tank volant taillé à ses mesures, pour éliminer du terroriste à la tonne, sans autre forme de procès, avant qu'ils aient le temps de cracher leur Boeing sur un McDo innocent. Parce que faut quand même pas déconner avec la justice. 1. Les tribunaux sont encombrés. Et 2. Tout le monde râle quand on fait ça à Guantanamo. Alors la peine de mort pour les terroristes, entre nous, c'est plus économique, surtout quand Tony Stark paie lui-même ses munitions high-tech. Mais c'est pas moi qui vais en parler le mieux, ça va être encore du sport. T'avais dit de te préparer, je t'avais dit, c'était après mon intro.
Ouais, mais bon, là j'ai un pied de micro qui tient pas, quoi. Alors bon, on va faire une petite manip en direct. Quoi.
D'accord, bah on coupe. Hein. Donc Thomas, on rappelle peut-être pourquoi on parle de ce film, qui a le mérite d'être comme américain ça. Et de droite.
Comme ça, parce que ça nous fait plaisir.
Parce qu'il, parce qu'il est sorti en avance en France par rapport aux autres pays, surtout.
Mais il est sorti mercredi, là. Il
voilà.
Est sorti mercredi, film de Jon Favreau, avec l'excellent Robert Downey Jr., et Jeff Bridges,
Gwyneth Paltrow,
et Terrence Howard.
Et Stan Lee, et... Pardon.
Il y a d'autres gens qui sont pas crédités au générique et dont on ne vous parlera pas.
Alors, du sport.
Moi, je sais.
Tu as relu Forbes, tu as relu le cahier saumon du Figaro. Et donc, tu vas nous parler de ce fameux Tony Stark. Donc, un jeune homme conquérant, Andy Edward Tony Stark, plus exactement. Voilà, donc qui est ce jeune garçon fringant,
jeune
chevalier
garçon,
de la queue de la liberté.
Il est quand même un peu la quarantaine, quoi.
Ouais, maintenant, quoi. C'est-à-dire
oui. Ouais, bon, mais comme patron,
fait vieillir,
il est jeune.
Mais pas trop par rapport à son année de naissance, hein, mars 63, en fait. et c'est sorti dans Tales of Suspense, hein, qui était une édition de Marvel Comics à l'époque. Alors c'est marrant parce que la plupart des grands super-héros qu'on connaît encore nous aujourd'hui, qui ont réussi à tenir la distance, qui ont vu leurs aventures filmées, sorties en film, voire en série télé, ont toutes été créées par le fameux duo comics, à savoir le scénariste et le dessinateur. Alors que pour Iron Man, ça s'est passé un petit peu différemment, tout simplement parce que, eh bien, au départ, c'est bien entendu les grands pontes de l'époque d'argent de Marvel, à savoir Stan Lee, tu l'as cité avant, et Jack Kirby, hein, un autre très grand, qui sont à l'origine d'Iron Man. Mais par contre, comme ils avaient en même temps d'autres projets qui les tenaient un peu plus à cœur, il y avait les Fantastic Four. Qui commençait à démarrer, qui avait démarré l'année précédente, hein, me semble-t-il, si je me souviens bien, en 62. Et donc ils étaient à fond dedans. Ils ont délégué carrément. Et on peut dire que bon, la paternité revient quand même à Stan Lee, à Jack Kirby. Mais après, eh bien, Stan Lee a délégué ça à un certain Larry Lieber, scénariste. Et quand on sait que Stanley, c'est le diminutif de Stanley Lieber, Larry Lieber n'est autre que son frère, en fait, hein, à Stanley. Et Don Heck pour le dessin, donc, qui ont vraiment commencé, on veut dire, à dessiner Iron Man. Par la suite, eh ben, quand on a vu que ça commençait à bien marcher, il faut dire que de 63 jusqu'à 68, Iron Man est apparu dans d'autres revues. Hein, il n'avait pas de revue à son nom, mais c'est à partir de 68 qu'il a commencé à avoir une revue à son nom, Iron Man, comme vous pouvez avoir X-Men maintenant, Hulk et tous les autres. Ça a commencé à la mayonnaise à prendre quand le PB a été confié au duo David Michelinie et Bob Layton, qui ont fait vraiment énormément dessus, hein, c'est-à-dire qui ont développé le personnage et qui ont également développé la contradiction qu'il y a entre ce type qui a tout, en fait, hein, il est milliardaire, il est inventeur, c'est-à-dire il a le pognon, il a le physique, il a l'intellect, donc il a tout, ouais. Mais il a quand même un problème. Son problème, bon, bah, c'est dû à l'accident qui engendre le début de la série. Hein, on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, Michelinie et Layton, ce qui s'applique à faire et tout, c'est un petit peu à déconstruire le personnage et à le rendre un peu plus ambigu. Parce qu'au départ, le personnage était, bon, bah, ok, comme tu dis, pro-américain, allez, il faut y aller, pas de problème. On garde de toute façon cette ligne, mais on commence à quand même un petit peu poser des...
Ce qui est très intéressant, c'est que il a été construit d'après Howard Hughes, et justement, la période que tu décris entre 63 et 68, ben, c'est le moment où on apprend qu'Howard Hughes est devenu complètement taré, reclus, etc.
Ouais, ouais, et puis bon, c'est, tu en parlais
avec
avant, hein,
avec
c'est...
l'apparition du fameux article sur Howard Hughes.
Les préoccupations de Monsieur Tout-le-Monde aux États-Unis à cette époque-là, eh ben, c'est un peu flippant. Hein. On sort un tout petit peu de la guerre froide. La crise de la baie des cochons, Kennedy qui est arrivé au pouvoir, mais qui est déjà en train de merder. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Ça, bon, on connaît un petit peu moins. Mais du côté des États-Unis, ça se passe assez mal, hein, politiquement parlant, hein, je veux dire. Et donc, bah, c'est dans cette ambiance-là que le personnage Tony Stark, Iron Man, donc, est créé. Après, David Michelinie et Bob Layton, qui ont quand même tenu le personnage à bout de bras pendant presque 7-8 ans, quoi. Hein. C'est énorme, hein, quand même, quoi. Il y a eu Donny Neal, il y a eu John Jackson Miller dans une période assez récente de fin des années 90. Warren Ellis aussi a un petit peu contribué.
On va en parler, oui.
Personnage avec un certain Adi Granoff, mais pour une très très courte durée. Alors Iron Man, il y a deux versions de son origine, en fait, parce que il faut savoir que son origine, c'est bon, mars 63, au départ c'est un inventeur milliardaire donc qui a bâti sa fortune sur la vente d'armes, et dans la version 63, tout au début, dans le premier épisode où on le voit apparaître, il est au Vietnam en train d'observer la mise en place des armes qu'il a lui-même créées, bien sûr, et une mine explose. Stark est mortellement blessé à la poitrine et est fait prisonnier par les Viet Cong à l'époque, hein, bien entendu. Ceux-ci tentent de le faire construire une arme pour eux, et donc il fait coup double en construisant avec les moyens qui lui sont fournis une armure à l'épreuve des balles qui lui servira à s'échapper tout en servant de peacemaker géant, parce que bon, bah, le problème c'est qu'il a reçu un éclat tout près du cœur et qu'il est vraiment très très blessé, et donc ça va lui servir de peacemaker géant pour soutenir son cœur blessé. Alors c'est là aussi que c'est marrant, à partir de ce postulat de départ, voir ce que les différents scénaristes ont pu faire, c'est-à-dire le rapport du corps avec l'armure, hein, l'exosquelette, on va dire, hein, on peut pratiquement parler de cette façon-là, parce que bon, ben, ils l'ont pris de différentes manières. La première époque, il n'y a pas de problème, c'est vraiment la cuirasse en fer blanc pratiquement, quoi. Et ensuite, ça commence à évoluer dans un look un petit peu plus futuriste à partir du moment où on commence à avoir des Mark 1, Mark 2, Mark 3, hein, les fameuses différentes armures avec les différents looks.
Il faut savoir que la Mark 1, c'était l'armure qu'il a construite justement prisonnier des Viet Cong et qui est faite à partir des bouts de métal qu'il pouvait avoir sous la main.
Voilà,
c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus, on dirait un scaphandre à la Tintin.
Ouais, ou carrément un des. En fait, la copie vient un petit peu d'un robot qui était paru 4 ans ou 5 ans auparavant dans une autre revue et qui avait été copié sur un des premiers robots présentés lors d'une foire internationale aux États-Unis dans les années 30 et qui s'appelait Electro et qui avait vachement marqué les gens parce que c'était la première fois qu'ils voyaient quelque chose qui bougeait comme ça, mais sans l'aide de rien du tout. Au contraire des bagnoles, faut toujours tenir le volant et tout.
Là, c'est à l'exposition universelle de 1938.
Donc ça avait vachement marqué. Et donc on peut dire que la première version telle qu'elle apparaît dans le comics, hein, c'est pratiquement la copie conforme, on peut dire, hein, de ce robot qui a été aperçu, qui a été vu et qui a eu un franc succès lors de cette exposition universelle.
Il y a un truc à souligner aussi, tu parlais des Fantastic Four, il y a Fatalis qui est arrivé avant, on peut aussi déduire qu'il a aussi inspiré certainement.
L'histoire est trouble car à plusieurs plusieurs moments, Fatalis et Iron Man qui sont identiques en fait, hein, puisque ce sont des corps emprisonnés dans un exosquelette. Hein, Fatalis c'est pareil, vont se charcler, mais vont également avoir beaucoup d'intérêts communs à certains moments. Et d'ailleurs, très récemment, dans Les Vengeurs, on peut se dire que Fatalis peut jouer un rôle. Mais ça, on le saura que dans le numéro de mai, quoi. Il va falloir attendre là.
12h15 sur FMR, c'est le supplément week-end.
Iron Man toujours avec on a posé les bases. Maintenant, quels sont les personnages qui gravitent un petit peu autour? Il y a les personnages traditionnels tels que ceux qu'on peut retrouver dans le film. La première, c'est Pepper, sa secrétaire. Alors bien sûr, c'est toujours. Il y a d'autres super-héros comme ça, hein, qui ont un petit peu le même rapport avec le duo Daredevil et sa secrétaire également. On peut parler de Superman et de Lois Lane. Pareil, hein, les amours secrets vont-ils craquer et tout. Alors bon, pour Tony Stark c'est un petit peu différent parce que Tony Stark est un homme à femme et donc lui il va pas s'emmerder la vie de toute façon, hein. Il va se taper les nanas qu'il a envie de se taper et tout sous le regard de Pepper, hein, qui elle, bon bah ok, elle est là pour travailler, hein, pas pour s'amuser. Alors il va rencontrer Roxanne Gilbert qui est la sœur d'un terroriste, il va rencontrer Marianne Rogers avec qui il a une super aventure, Madame Masque à un moment aussi, quoi, qui est une ancienne adversaire mais qui va bien lui plaire. Madame Masque qui a également cette particularité d'avoir, elle a été défigurée dans un incendie et donc elle est obligée de porter un masque de fer pour être à peu près regardable. Et donc Tony Stark il va quand même se taper ce qui est pratiquement son alter ego féminin, tu vois, hein, ça va un petit peu loin quand même. Il y a également Bethany Cabe, ça c'est dans les années 80, et Bethany Cabe en fait est son garde du corps et donc il va avoir quelques petites alors dans le cercle fermé de Tony Stark, outre Pepper, hein, qui est sa secrétaire, il y a également un de ses amis de la première génération, Happy, qui est son chauffeur, hein, un petit peu l'alter ego on va dire, c'est-à-dire que il y a ça, c'est des raccourcis scénaristiques qu'ils aiment bien, quoi, de toute façon, à savoir quand il y a quelque chose qui a besoin d'être fait mais qu'on n'a pas la place de le mettre sur une case ou sur deux cases, on dit oh bah non c'est pas trop, la voiture est pétée, ah bah non attends, bah Happy l'a réparé, c'est bon, tiens on va prendre celle-là, Happy est en train de la réparer, tu vois, enfin bon, c'est des petits raccourcis pour éviter de se perdre dans les méandres d'à côté l'histoire pour essayer d'expliquer bon ben voilà c'est réparé mais c'est parce que c'est lui qui l'a réparé, pas de problème et tout, tu vois, quoi. Voilà.
D'ailleurs le chauffeur dans le film est interprété par le réalisateur lui-même
en plus de Favreau. Kevin O'Brien également, un de ses premiers on va dire alter ego, c'est un jeune qui va essayer de former et Tony Stark va commencer à avoir des problèmes de santé un peu sérieux, va essayer de le remplacer sous le nom du garde, mais ça va pas durer des masses parce que au bout de 5 ou 6 numéros Kevin O'Brien disparaît comme par enchantement, c'est pas ce qu'il est devenu et tout. Par contre, il y en a un autre qui va apparaître et qui lui va rester vachement longtemps, c'est James Rhodes, qui en fait apparaît au début des années 80, et ce qui fait qu'entre 63 et 80, on savait pas du tout que Tony Stark, il avait un copain au Vietnam et tout, qui s'appelait James Rhodes et tout, et donc il débarque comme ça et tout.
Ta-da !
Et James Rhodes est un black, et c'est lui qui... dans justement ce fameux toute cette période scénaristique de David Michelinie et Bob Layton qui vont développer l'alcoolisme de Tony Stark, vont faire que Tony Stark pendant pratiquement 2 à 3 ans ne va plus accomplir aucune mission mais va se faire remplacer par Jim Rhodes qui est son pote et qui va former donc à faire toutes ces choses là. Alors ça c'est pour les gens qui font partie du cercle fermé de Tony Stark et qui ne sont pas des super-héros. Mais comme Tony Stark est devenu un super-héros...
C'est pas un super-héros, c'est un justicier.
Ouais mais bon...
Il a aucun super-pouvoir.
Ouais mais non mais il se...
C'est comme Batman, il a des joujoux.
Oui mais c'est un super-héros quand même.
Il a quand même... Parmi les joujoux qu'il a par rapport à Batman, les joujoux de Tony Stark sont beaucoup plus meurtriers que ceux de Batman quand même.
À l'aise.
On est d'accord. Mais ça n'est pas un super-héros, il a pas de pouvoir.
Exactement, ouais c'est vrai que
ça dépend dans quel BD.
Ah l'enfoiré.
Toi aussi tu as vu Extremis.
Ah oui, non mais on avait dit qu'on, comme on n'a pas de jingle spoiler, on évitait.
Bon, ok. Passons maintenant à la galaxie Iron Man, on va dire, parce que Iron Man dans la galaxie Max Marvel, c'est quand même le membre fondateur des Vengeurs. Hein. Alors,
Cofondateur.
Ouais, cofondateur. Hein. Petit quiz. Les Vengeurs, les originaux, c'est qui? Allez, vas-y.
Alors, Giant Man.
Ouais.
La Guêpe.
Ouais.
Oh merde.
Ils sont quatre, non?
Ouais.
Ah merde, alors le dernier.
Alors,
il y a Captain America qui vient après.
Ouais, après. Alors,
il y a le fantôme, non?
Non.
Il y a Hulk aussi.
Voilà. Et celui qui a le chapeau avec les ailes dessus.
Ah oui, mais Thor.
Thor, voilà.
Il faut dire que le chapeau.
Vous m'avez laminé là, ça j'ai compris.
Ouais. Alors il faut dire que ça c'est le premier groupe des Vengeurs et tout, mais Hulk n'a fait son apparition que dans quelques numéros, puis se fait remplacer parce que il est ingérable. Bon, c'est Hulk. Et donc se fait remplacer. C'est là que Captain America arrive. Iron Man forme également les puissants Vengeurs avec. Pas les mêmes, enfin on retrouve la Guêpe, il y a Ares, il y a Miss Marvel, ça c'est la version qu'on peut avoir actuellement, hein, c'est-à-dire dans Marvel Heroes quoi actuellement, quoi. On peut suivre l'histoire des puissants Vengeurs avec justement Ultron qui vient de se faire dégommer et tout quoi. Donc il y a Ares, Miss Marvel, la Guêpe, Wonder Man, la Veuve Noire et Sentry qui lui Sentry dans l'univers Marvel de toute façon c'est l'équivalent de Superman, hein, y a pas à péter, hein, c'est le héros le plus puissant quoi, il est capable de contrôler 1 million de soleils en fusion mais il est très instable mentalement. M'étonne. Alors au niveau des pouvoirs de Tony Stark, le corps entier de Tony Stark a été augmenté par le virus techno-organique Extremis, lui garantissant des sens et des réflexes surdéveloppés.
Ça c'est très récent.
Oui. C'est-à-dire qu'au départ, justement, ça lui permet justement de pouvoir sortir de son truc, parce qu'avant il pouvait pas sortir, il était plus ou moins tout le temps relié, quoi. Il peut relier son cerveau avec quasiment chaque ordinateur sur Terre et effectuer une douzaine de tâches simultanément. Son enveloppe inférieure de l'armure d'Iron Man est emmagasinée dans ses os et il peut appeler cette dernière quand il enfile l'armure. Celle-ci étant dirigée magnétiquement par l'enveloppe inférieure, s'assemblant elle-même autour du corps en quelques secondes.
Du sport. Tu viens de spoiler...
Le comics Extremis.
Ah ben oui.
Car tu ne retrouves ça que dans la version justement dont tu parlais de Warren Ellis et Adi Granoff, et alors que normalement ces réflexes-là il ne les a pas. C'est des trucs qu'il vient d'avoir et qui a inspiré le film d'ailleurs. Mais non, c'était une parenthèse.
Bah oui, tout à fait. Au niveau du matos, l'armure est défendue par un bouclier draineur d'énergie qui s'étend depuis ses gants. L'armure permet à son porteur de soulever 100 tonnes. Les bottes à réaction peuvent le propulser à Mach 8. Mach 8 c'est énorme, hein. Mach c'est 1,256 km/h.
C'est la vitesse du son.
La vitesse du son, ouais.
C'est les courriers commerciaux, les avions commerciaux sont en dessous de Mach et les plus rapides des avions de chasse vont à Mach 2 en général.
Il me semble que c'est 1,256 ou 1049. Je ne me rappelle pas.
Bon, mais il est des poussières en tout cas.
Ouais, plus. L'armure est spécialement recouverte pour la résistance au radar et à l'annulation des blocages sur cible. Les accessoires de la plaque thoracique contiennent l'unirayon, une lumière de recherche qui peut projeter des rayons à quasiment chaque spectre, c'est-à-dire visible, infrarouge, ultraviolet. L'unirayon possède également un projecteur de rayons laser, un générateur électromagnétique qui peut couper l'électricité de tous les équipements dans un rayon de 45 mètres. L'armure elle-même se reboot en quelques minutes. L'armure est également équipée avec des arcs à pulsation de plasma, des générateurs soniques, etc., etc. Et au niveau des petits équipements, genre gadgets, on va dire, lance-missiles, mini-pistolets, mitrailleuses, j'ai pas tout marqué, il y en a trop, hein. Patins à roulettes dans les bottes, lames et scie rotative dans les gants, gaz lacrymo, lance-flammes, sondes de détection, taser et mousse à incendie. j'ai pas tout mis, hein. Voilà, donc ça vous montre que c'est quand même assez efficient. Alors là, c'est un petit peu le résumé de ce qui a été fait au niveau technologique durant les différentes époques d'Iron Man. Hein, sachant que il faut savoir qu'au niveau de l'origine de Tony Stark, il y a eu deux versions. Il y a la première version que je vous ai racontée au Vietnam et tout, et une deuxième version qui est sortie au début des années 2000, on va dire, dans laquelle on changeait un petit peu l'origine. L'origine est exactement la même. Mais pour les jeunes qui n'avaient pas vraiment connu le Vietnam et pour qui ça passait pour être des trucs de vieux cons, on a dit ok, on transpose ça toujours en Asie. Et puis bon, bah ok, c'est en Asie à l'occasion d'une visite qui se fait dégommer, qui se fait faire prisonnier par le même asiatique d'ailleurs que dans la version originale, mais qui là n'est pas un Viet Cong, mais fait partie d'une organisation dirigé par l'un des futurs adversaires de Tony Stark, à savoir le Mandarin. Et bon, voilà, c'est tout. Hein. À part ça, c'est exactement la même chose.
Il y a aussi un personnage qu'on retrouve dans le film qui l'a aidé à fabriquer l'armure et qui se sacrifie pour qu'il puisse s'échapper, c'est le professeur Yinsen.
Yinsen, voilà, ouais, ouais. Qui est le même dans les deux versions. Hein.
Oui.
C'est-à-dire on a Yinsen dans la version 63 et dans la version de début 2000, c'est pareil, c'est le même. Voilà donc, petite présentation légère, on va dire, hein, en ce qui concerne Iron Man comics. Alors, moi, je me suis pas trop emmerdé la vie et tout, quoi. La recherche sur ordinateur, c'est vite fait. Et je suis tombé sur un site qui, là, en ce moment, est en cours de traduction, c'est-à-dire il n'y a pas tous les textes qui sont traduits en français pour le moment, c'est Marvel Worlds, hein, marvel-world.com, et c'est un site très très complet. Alors vraiment, c'est énorme à propos de tous les héros Marvel. Hein, on sait qu'il pèse 93 kilos pour 1m85, tu vois. Vraiment, non, il y a
ah,
tout.
C'est
hein.
du précis.
Non, c'est du super précis. Hein, mais il y a quelques éléments encore qui ne sont pas traduits en français. Mais ce site est vraiment très très complet. Hein, c'est là que je me suis un petit peu repéré pour vous sortir toutes ces références à propos d'Iron Man. Mais il y a tous les autres super-héros donc, qu'on peut retrouver sur ce site. On trouve également Iron Man sur les recherches et tout, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les comics. Hein, c'est un petit peu l'ancêtre des triathlons. Mais ça, c'est plutôt mon domaine.
D'accord. Ah oui, il y a aussi un truc dont tu n'as, je crois que tu n'as pas parlé. C'est qu'à un moment donné, dans les histoires de comics, Tony Stark parvient à solutionner son problème de bout de métal de mine qui entre dans son cœur et qui il n'a plus besoin de porter son armure,
non, il n'a
plus besoin d'avoir un répulseur. Donc les scénaristes, pour lui trouver un autre problème à résoudre, lui ont trouvé le problème de l'alcoolisme. C'est comme ça qu'il est devenu alcoolique.
Et ex-alcoolique, ce qui est peut-être pire.
Puis ex-alcoolique. Ouais.
Parce que là, ça rend en général hargneux et tout ça. Nous, on a rencontré celui qui est derrière Iron Man. Du moins, celui qui est derrière le film.
Celui qui est derrière, qui est devenu le spécialiste d'Iron Man au niveau graphisme, hein, puisque c'est le dessinateur, et qui a contribué à déringardiser Iron Man au cours d'une mini-série dont on parlait tout à l'heure et dont on reparlera tout à l'heure. C'est Extremis qu'il a fait avec Warren Ellis. Et il a aussi fait d'autres séries plus régulières d'Iron Man. Et son travail a tellement frappé l'imaginaire des fans qu'il a contribué au character design du film. C'est le character designer du film. Et son entente avec le réalisateur a tellement bien fonctionné qu'ils sont en train de travailler sur une autre série Iron Man dérivée du film. Donc en collaboration avec John Favreau.
Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est bosniaque. Voilà, donc il a été en 2004, on a Marvel l'a présenté comme étant les nouveaux fusils, les Young Guns, qui vont renouveler Marvel parce qu'ils sont très très prometteurs au niveau graphisme. Et c'est vrai que de ce côté-là, ils sont absolument énormes. Nous, on les a rencontrés après moult péripéties lors du festival d'Angoulême. On remercie quand même Panini. mais ça a été assez dur pour essayer de le choper. Et donc On s'est vraiment éclaté avec lui, comme vous allez pouvoir l'entendre. Adi Granoff, dans le supplément week-end sur Radio FMR. Oui, quand ça veut d'ailleurs.
Adi Granoff, bonjour.
Bonjour.
Iron Man is a kind of hero with a lot of political elements.
Iron Man est un héros qui est assez chargé politiquement. C'est un ancien alcoolique, un va-t-en-guerre, parce que c'est son business et l'origine de sa richesse. C'est aussi un vengeur. Y a-t-il un thème politique que Marvel n'oserait jamais laisser aborder dans leurs comics?
I don't think so. I mean, I think it all depends on the writers who are writing it.
Je ne pense pas vraiment. Tout dépend du scénariste qui écrit l'histoire. Par exemple, le livre que j'ai dessiné avec Warren Ellis aurait pu parler de n'importe quoi. Il ne s'est pas vraiment retenu. Politiquement, je ne pense pas. Marvel est plutôt ouvert à plein d'idées différentes. Si quelque chose était absolument extrême, il mettrait le haut là-dessus. Ils ne rejetteraient pas une bonne idée. Marvel est une entreprise indépendante, ils sont plutôt ouverts d'esprit. Leurs scénaristes le sont également, et avec des opinions politiques différentes. Selon les bouquins, vous pouvez avoir différentes opinions qui y sont exprimées. C'est une très bonne chose chez Marvel qui est différenciée de certaines entreprises plus frileuses politiquement, parce que je pense être de la peur. Parce qu'ils font partie d'un grand groupe comme...
Vous pensez à DC ?
Well, yes, without saying it, but I mean, and it's not just them. I mean, there's
Oui, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres éditeurs qui font partie de grandes corporations. Pareil pour les films Marvel, puisque Marvel produit désormais ses propres films et n'ont de compte à rendre à personne. C'est avec leurs fonds propres qu'ils réalisent leurs films et c'est la même chose pour les bandes dessinées. Quand vous faites un film pour un grand groupe, vous devez tout justifier. Marvel permet de faire ce que l'on veut. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas limité politiquement.
Iron Man fut dessiné par plusieurs dessinateurs avant vous. Pour le character design du film, quelle a été votre marge de manœuvre ?
I was completely free. Because for the movie itself, by that point I already did the book Extremis, so I already established a certain look.
J'étais complètement libre. Je venais de faire l'arc Iron Man Extremis sur lequel se base principalement le film. Je venais d'établir le look. Même quand j'ai commencé le livre, j'étais complètement libre puisque je créais un nouveau numéro 1. Ça ne dépendait pas du travail d'un de mes prédécesseurs puisque je reprenais tout à partir de zéro. J'avais de la chance de créer selon mes propres envies. Mais en même temps, j'avais envie de rester cohérent et de ne pas partir dans un délire total. Je voulais rester réaliste et respecter ce qui avait été fait avant moi.
Vous voulez éviter les erreurs qui ont été faites pour les Quatre Fantastiques dans les années 90.
Oui, certains designers se permettaient de faire des trucs complètement différents juste parce qu'on leur en a laissé la liberté et pas parce que c'était ce qu'il fallait faire. Iron Man est en rouge et or, des éléments essentiels qui font partie de sa personnalité. Si vous changez cela ou d'autres détails comme le design des automates, ça fera un choix de design, mais ça ne sera pas Iron Man. Quand nous avons recherché les éléments graphiques pour le film, nous nous sommes dit, il faut que visuellement cela soit Iron Man et personne d'autre. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous préciser, c'est le nouveau design d'Iron Man. Il suffit de le voir pour que vous le sachiez, c'est Iron Man. Nous avions besoin de respecter le passé du personnage sans avoir à y coller absolument. J'ai pu faire tout ce que je voulais, mais en respectant les éléments principaux de la trame.
La morphologie de Robert Downey Jr. a-t-elle influencé le caractère design d'Iron Man pour le film ?
The suit, you mean? For the actor?
Vous parlez d'armure pour l'acteur ? Oh non, je n'ai pas eu à m'en soucier. C'est le studio de Stan Winston qui a finalisé la version réelle de l'armure. Ils ont repris mon design et leur propre équipe a bossé dessus.
They made sure that it fits, and they worried about all that stuff to make.
La modélisation numérique a été faite par Mike Sanders, et nous avons tous bossé ensemble. Stan Winston Studio a fait en sorte que l'armure soit à la taille de l'acteur. Concernant mon travail, ça n'a pas été mon souci. Je devais faire en sorte qu'un humain puisse entrer dans l'armure. L'équipe de Stan Winston a modélisé en 3D pour les effets spéciaux, et ils ont aussi construit une version complète qu'apportait Robert Downey Jr.
A 3D version in the computer for special effects, but they also built a full suit as well for Robert Downey Jr. to wear.
L'acteur qui porte l'armure n'a qu'une expression à afficher. Alors, qui verriez-vous dedans ? David Caruso ou Steven Seagal ?
David Caruso ou Steven Seagal ?
Qui est David Caruso ?
Les experts Miami.
Oh, non.
Steven Seagal, c'est mon dernier mot.
Les bandes dessinées de X-Men sont profondément inspirées des films de Bryan Singer. Est-ce que dans vos futures créations d'Iron Man, est-ce qu'elles vont s'inspirer du film ?
I think well the book that I'm doing right now uses the because I worked on the movie design.
Nous avons décidé d'utiliser le même design que celui que j'ai conçu pour le film, pour la mini-série que je dessine.
The regular Iron Man series will not use that design. The regular Iron Man that also I designed.
Mais la série régulière d'Iron Man ne reprendra pas ce design, mais un autre que j'ai aussi conçu. Donc la réponse est à la fois oui et non, selon qu'on parle de ma mini-série dérivée du film ou de la série régulière qui en est complètement indépendante. Je pense que c'est une très bonne chose, car parfois les films ne sont pas meilleurs que les BD, même si parfois l'inverse est vrai. Il ne faut quand même pas systématiquement reprendre ce que l'on voit au cinéma.
You know, or often movies aren't better than comics, so you shouldn't just take whatever is in a movie into the comic.
L'organisation du dessin d'un comics de super-héros est très différente de celui d'une BD en France et en Belgique, où le dessinateur signe à la fois l'histoire et la couverture. Vous préférez dessiner la couverture ou les pages intérieures ?
I prefer the inside. I mean, I like doing the covers, but the covers is it's always
Je préfère dessiner l'intérieur. J'aime bien faire les couvertures, vous savez, les personnages sont souvent dans des poses figées, non réalistes. C'est marrant, mais après une dizaine, les couvertures se ressemblent toutes.
The pages inside, they tell a story, and there's a lot of movement, there's a lot of, you know, there's a purpose.
Alors que les pages intérieures racontent l'histoire, ont beaucoup de mouvements. Elles donnent une intention à votre dessin, c'est pour ça que je les préfère. C'est plus de boulot pour moins de résultats, finalement.
Le rouge de l'armure exprime-t-il le sang, la guerre contre le communisme, ou les couleurs du Parti républicain?
Vu le business de Stark sur les armes, ça me semble évident qu'il s'agisse de l'étendard du Parti républicain.
Andy Grammer, thank you very much. I'm very sorry for a very bad accent in English.
It's all right.
Voilà, il est adorable. Il s'est prêté au bon jeu des questions. On n'a pas été très nombreux finalement à l'avoir interviewé lors du festival d'Angoulême.
Certainement Comic Box et nous. Et s'il faut savoir que c'était à la fin de la séance de dédicace, il lui tardait qu'une chose, c'est de se barrer. Il était avec sa femme. Et en plus, il a eu la gentillesse de nous faire une dédicace en plus. Donc franchement, ouais, c'était cool.
Voilà. Et après, on a parlé de Iron Man comme étendard du Parti républicain. Oh mais attendez, il faut faire une liste de héros là et il faut voir quelles sont la liste des super-héros du parti des partisans du Parti républicain. Attention, et qui dit classement dit top et qui dit 5 dit
le top 5. Numéro 5.
En numéro 5, oncle Picsou. Il est riche, il est peu dépensier, il est contre la constitution d'une sécurité sociale ou des ascédiques, il mène lui-même une politique sécuritaire pour boucler ceux qu'il vole. Par exemple, les Raptou, Miss Misty, voire Donald quand il paie pas son loyer. Bon, inconvénient, c'est surtout un animal qui mime l'homme. Et là, c'est pas franchement ni à l'image de Dieu, ni très respectueux de la religion.
Numéro 4.
The Punisher. Expéditif, sans pitié, baroudeur international, barbouze non officiel, adepte de la torture, du meurtre, des exactions sans retenue. Exactement ce que cherche le Pentagone par paquet de 100 000 pour remettre de l'ordre chez les infidèles du Moyen-Orient.
C'est Jack Bauer.
Inconvénient, il est incontrôlable.
C'est Jack Bauer.
Numéro 3.
Bruce Wayne, alias Batman. Riche, dandy, donne aux bonnes œuvres, mais surtout régule le crime là où la police municipale, beaucoup trop démocrate, laisse courir les mécréants. Inconvénient, trop de scrupules, et il ramasse un peu trop son action sur Gotham City.
Numéro 2.
Tony Stark, alias Iron Man bien sûr. Même si sa fortune fait que 6 milliards de dollars, soit 1 milliard de moins que Bruce Wayne, selon le magazine Forbes de décembre dernier, il sert à la fois de publicité géante pour sa compagnie et participe à la modélisation du monde à l'effigie des États-Unis. D'ailleurs, il a carrément fait une OPA sur les unités mondialistes de l'ONU, alias le SHIELD.
Numéro 1.
Alors le numéro 1 des super-héros pour les républicains, eh ben c'est bien évidemment Jésus. Mais attention, pas le Jésus baba cool, non, celui de l'Inquisition espagnole, matiné d'un peu de réussite économique personnelle et d'une destruction accélérée de la planète. Ah bah oui, plus vite nous mourrons, plus vite arrivera le royaume de Dieu. Voilà, c'était un top 5 des super-héros républicains fait sur un échantillon représentatif, c'est-à-dire moi-même. Et puis voilà. Et il y a la régie finale qui me dit qu'il est 12h38 minutes et 47 secondes, que tu fais chier Xavier, que t'as oublié de passer la pub. On la passe à pub, hein ?
Oui.
Vous en rêvez ? Éphémère le fait. Radio Éphémère et The Ramirez organisent la nuit des Ramones au bikini vendredi 20 juin. Pour participer, préparez 5 à 8 morceaux des Ramones. Envoyez ou déposez une démo à Radio Éphémère ou en fichier son sur marie@radio-éphémère.net et n'oubliez pas votre contact. Il vous reste à ressortir votre vieux perf de la poussière, chausser vos converses pourries et vos lunettes rondes et à laisser pousser vos cheveux pour vous lancer. À gagner, un pack de crocs. Non, je rigole. Date limite des inscriptions, le 20 avril.
«
Et au kilo du supporter violent et raciste, le cours du PSG mérite une enquête de l'autorité des marchés financiers.
Ça, c'est du sport. Tous les samedis, 13h sur FMR.
Mon fucker, j'étais en train de virer Jean-Pierre Gaillard bien là et tout quoi.
Allez.
Le supplément week-end.
Ouais.
Avec comme Tony Jackie Stark Chan. Et Iron Man.
Comme
reprend
Jackie
de
Chan
suite.
Avec le bêtisier à la fin.
Reprend voilà. De suite avec The Kinks Wonder Boy.
On a parlé on a présenté Iron Man, on a fait l'interview donc du dessinateur, et en fait j'ai oublié, on aurait dû parler de la bande dessinée avant de présenter le dessinateur.
Il l'évoque, mais non, il revient pas en détail dessus quand même.
Donc on va parler
de Iron Man Extremis, scénario de Warren Ellis, dessin d'Ali Granoff, c'est chez Marvel. C'est chez Panini Comics, collection Marvel Graphic Novels. Et le milliardaire Tony Stark est toujours sujet aux problèmes de conscience liés à son statut de marchand d'armes, enfin de fabricant d'armes pour l'armée. De plus en plus embarrassé par ses contrats avec l'armée, il se sent également freiné dans son évolution. Toujours en quête d'une armure plus performante, celle-ci est sous-employée. C'est ce moment que choisit un terroriste dopé à la substance expérimentale Extremis pour en faire voir des vertes et des pas mûres à un Iron Man complètement dépassé. Alors, il s'agit d'un grand bond en avant au niveau graphisme pour cette BD, puisque justement on abandonne un peu la texture armure brillante, je suis fleuron des comics de super-héros, pour avoir une armure beaucoup plus brossée. Tiens, d'ailleurs, je la montre à du sport. Et justement, le découpage de la BD, en fait, on n'y prête pas attention au début, mais si vous observez bien, c'est fait sur des trois colonnes et trois rangées horizontales. Donc c'est construit à partir de ça. Ils font faire un découpage qui est assez, on peut dire, figé, mais en même temps, c'est le parti pris de la bande dessinée. Et justement, c'est la narration, il faut le voir, il faut le lire plusieurs fois. Il y a plusieurs histoires. Enfin, on va dire qu'il y a des actions en parallèle qui mettent en valeur chacune d'elles, évidemment, puisque par exemple on peut avoir une séquence de boucherie assez gore, hein, on va dire, pendant que Tony Stark va discuter avec un ancien mentor complètement dopé au hashish et aux substances psychotropes.
Ouais, un baba cool.
Voilà, un baba cool.
Voilà, mais 68 quoi.
Peace and love, voilà.
Mais 68.
Donc voilà, le rendu général est pas très bling bling. Hein. C'est très poussiéreux dans les tons un peu bruns. Tu dis ça fait un peu crade. T'as un remarquable travail sur les visages et sur la lumière. Tu dis le mec s'il travaille pas d'après photo, c'est vraiment un tueur. Donc la BD se lit assez vite. Hein. Ça peut sembler un peu léger à première lecture, mais si vous la lisez une deuxième fois, vous voyez qu'il y a un sous-texte sur l'évolution de Tony Stark. Est-ce qu'il se sent freiné? Est-ce que justement cette substance...
Pour toi, ça se lit vite. Faut pas commencer à 3h du matin.
Et oui. Et justement la substance extrémiste prise par le criminel, est-ce que c'est pas cette substance là qui va aider Tony Stark à rendre son armure encore plus performante et qui va pouvoir aider le plus possible les gens dans le besoin, puisque l'histoire commence sur une interview qu'il accorde à un réalisateur de documentaire sur c'est un réalisateur engagé, donc il va titiller Tony Stark sur justement son implication par rapport à l'armée, sur le fait qu'il y a encore des mines à lui de Stark Industries qui continue à buter des mômes au Timor, etc. Donc Tony Stark va devoir se justifier par rapport à ça, et tu vois vraiment le conflit intérieur qui au début il arrive pas à se voir dans une glace, etc. Donc on va voir l'évolution dans la bande dessinée. C'est quand même un sous-texte assez fort, et malgré l'apparence un peu, on va dire, je dirais que le graphisme est vraiment très impressionnant, mais apparaît un petit peu figé quand même, mais c'est quand même une BD qui se laisse lire et qui vraiment tabasse sa race quand même, hein, on peut dire. Xavier, ton avis?
Moi mon avis, c'est que justement c'est pas trop flamboyant.
Oui.
C'est pas le côté, je vais dire, limite gothique des super héros avec des trucs dynamiques, etc. Non, c'est un héros qui est extrêmement noir. C'est clair, il est torturé. Graphiquement d'ailleurs, on sent l'ambiance est très sombre, sombre comme son humeur. On ne sait pas trop d'ailleurs vers où il va. Il n'y a pas de moment vraiment joyeux dedans, hein. Il n'est pas du tout détaché et ça se ressent très bien. La bande dessinée a vraiment une ambiance soutenue de ce côté-là, assez étonnante, parce que un, c'est latent, et puis deux, quand vraiment ça décolle, et ben finalement on se dit il y a encore la retenue, ça explose pas complètement. Et on se dit, ils retiennent leur coup, mais on se demande pourquoi. Et on le sait par le but ultime, justement, du terroriste. Donc voilà.
Tout à fait. Et donc justement, l'extrémis, la substance dont parlait du sport tout à l'heure, qui fait que, du sport racontait la fin de la BD.
Ouais.
Qui va voir Iron Man. Qui va voir Tony Stark littéralement fusionné avec son armure. Qui va pouvoir être relié au satellite de surveillance, va être un super-homme, et va accéder au statut de super-héros, puisqu'il aura des compétences que n'aura pas n'importe qui pourrait rentrer dans son armure. Voilà, donc c'est Iron Man Extremis, scénario de Warren Ellis, dessin de Adi Granoff, chez Panini Comics, dans la collection Marvel Graphic Novels.
Ouais, parce qu'il faut préciser quand même que les armures que Iron Man possède tout au long de la saga Iron Man et tout, on lui en a piqué pas mal, hein, des super vilains qui justement se voulaient servir de son armure pour pouvoir le buter. Tu vois, bon, ça arrivait, on va dire, plus d'une paire de fois, hein, dans la saga Iron Man. Je voulais revenir justement aussi au caractère un petit peu comme ça, titilleur, conservateur et jusqu'au boutiste, on va dire, de Tony Stark. Dans la deuxième histoire de son origine, il faut savoir qu'il a des parents. C'est pas lui, hein, qui construit sa fortune tout seul et tout. En fait, il hérite de la fortune de ses parents. Ses parents qui sont morts dans un accident de voiture. Et Tony Stark, justement, quoi, bon, à cette époque-là, est un jeune étudiant qui est justement en train d'étudier l'ingénierie, enfin bon, technologie et tout ça. Et quand il prend le contrôle donc des Stark Industries et tout, la première chose qu'il fait, une des premières choses qu'il fait dans la BD, hein, c'est de racheter l'usine qui a fabriqué la voiture qui avait un défaut et qui a provoqué l'accident, pour pouvoir remédier au défaut qu'a la voiture qui a provoqué l'accident, qui a provoqué la mort de ses parents.
Et un élément assez important dans la mythologie de Tony Stark, c'est que il construit la plupart de ses inventions dans son garage.
Ouais.
ça, c'est le grand mythe du garage de la Silicon Valley, que cela soit les créateurs de Hewlett-Packard, d'Apple, et tous les autres. La chronique du film vous est présentée en multiplex popcorn surround par Thomas. Ça a été vraiment insupportable.
Après la BD Iron Man Extremis, voici le film qui a été en partie inspiré par cette BD. Voici Iron Man, le film, un film de réalisé de et avec Jon Favreau, avec également Robert Downey Jr. Que vous pouvez apercevoir en ce moment sur dans Ally McBeal tous les jours à 11h sur M6. Avec Jeff Bridges, si vous l'avez, si vous gardez une image de lui dans The Big Lebowski, vous allez pas le reconnaître.
The Dude,
voilà. Gwyneth Paltrow, Terrence Howard et d'autres acteurs connus non crédités. Le richissime Tony Stark a tout dans la vie. Il collectionne les belles femmes comme les belles bagnoles, habite une somptueuse villa à Malibu, fabrique des armes pour l'armée, tout ça en bricolant des gadgets dans son garage. Mais après avoir été touché au cœur par une explosion en Afghanistan causée par une de ses propres armes de Stark Industries, Tony est pris en otage par des terroristes. Alors pour s'échapper, il va mettre au point, au nez, à la barbe de ses ravisseurs. Bon, il faut dire qu'ils sont un peu cons parce qu'ils ont une caméra qui retransmet pas les sons. Et puis, au lieu de fabriquer leur fameux missile, ils commencent à se faire des jambières en métal. Donc, et ils comprennent pas qu'il fait autre chose qu'un missile. Une armure, il va se fabriquer donc une armure surpuissante qu'il va ensuite perfectionner. En même temps, connaîtra chez lui un tout nouveau sens de l'éthique. Alors, on va le dire clairement, par rapport à d'autres putains d'adaptations de super-héros, genre les deux premiers Batman, les deux premiers Spider-Man, qui étaient franchement bien. Iron Man se situe...
X-Men aussi.
Oui, X-Men, moi j'aime bien le 2, moi surtout, mais voilà.
Le 2 pas mal aussi, ouais. Mmh. Le 1 est bien aussi, hein. La mise en place des personnages est vachement bien foutue. Mmh. Bon, c'est hyper crédible, ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est intéressant, justement.
Mmh. Alors là, justement, Iron Man, le film, fonctionne aussi au niveau crédibilité, mais se situe un peu en deçà par rapport au baston qu'on peut voir, ou même l'univers graphique gothique, bon, évidemment, qui est beaucoup plus cinégénique de Batman. Mais il faut dire qu'Iron Man joue beaucoup plus sur le registre du léger, puisque se concentre avant tout sur la personnalité de Tony Stark plus que sur Iron Man, en fait. Alors les petits bémols qu'on pourrait mettre au film, c'est effectivement un méchant un peu caricatural à mon goût. Bon, Jeff Bridges, il en fait des tonnes. Bon, c'est un méchant de comics. Après, voilà, quand il commence à s'énerver, bon, c'est les sempiternelles phrases, ah ah ah, sans moi, l'entreprise n'est rien, ah ah ah, je vais te péter la gueule, c'est moi qui régnerai sur Stark Industries, ah ah ah, voilà, bon, c'est festival, bon, après, par contre, bon, voilà, Robert Downey Jr. est excellentissime dans le film, bon, Tony Stark,
il est incroyable,
t'y crois à fond, il va jamais jouer sur le registre du héros torturé, contrairement à Extremis, justement, il va toujours jouer sur le côté décalé, humour, même quand il commence à prendre des décisions un peu, quand il comprend qu'il s'est un peu fourvoyé en travaillant pour l'armée, qui va essayer de trouver un but à sa vie, il est tout le temps dans le second degré également. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir, ça nous rappelle un peu les anti-héros. Bon, il y a les criminels, mais bon, lui il est pas encore criminel, enfin il est pas du tout criminel, mais
si, quand même un peu.
Ouais, un peu, il a un côté un petit peu Tony Montana, je trouve, et puis surtout le personnage Yuri Orlov de Nicolas Cage dans Lord of War. Puisqu'il était aussi travaillé dans les armes, ouais. Donc là, de ce côté-là, bon, voilà, le film vaut rien que pour Robert Downey Jr. qui est vraiment très très bon dans le film. On a beaucoup de un humour vachement proche du cartoon, presque du dessin animé, on va dire, à la Pixar, puisqu'on a certaines scènes inénarrables et assez mémorables dans le film avec son robot Jarvis. Donc ils ont repris le nom de son majordome, effectivement, puisqu'il est devenu un robot assistant. Ouais. Alors par exemple, on voit Tony Stark commencer à essayer son armure, donc il se crache, et puis il y a le robot qui persiste à vouloir l'asperger de gaz extincteur. Alors à un moment donné, on voit
Il a un dialogue en fait avec les différents robots. Sachant que Jarvis est l'IA qui commande tous les robots dans la maison.
Voilà, donc il y a un robot qui est longiligne et qui sert à asperger de gaz extincteur. Et on est à Tony Stark qui pète un grade. Non, je ne flambe pas. Donc c'est un gag récurrent dans le film, c'est assez rigolo. En plus, il a le robot à la pose vraiment à la Wall-E, à tous les dessins animés, les comment Disney avait essayé d'animer le tapis volant dans Aladdin, c'est exactement les mêmes poses, c'est assez rigolo de ce côté-là. Et on a aussi une scène assez rigolote où il y a Tony Stark qui vient d'endosser son armure, qui a fait une petite virée, qui revient, et puis il y a on voit juste un son, puisqu'il y a Pepper Potts qui arrive dans le garage de Tony, et puis on entend le robot qui dit à Tony, non, allez, arrête de te débattre, plus tu te débats, plus ce sera douloureux, attends, c'est la première fois. Et puis il y a Pepper Potts qui arrive et Tony, attendez, Pepper, vous m'avez quand même surpris dans des positions beaucoup, beaucoup moins avantageuse. Voilà, un sous-texte assez rigolo. Au niveau effets spéciaux, alors je disais, le film a insisté beaucoup sur beaucoup plus sur Tony Stark que Iron Man, donc les scènes à effets spéciaux, quand on voit qu'il endosse son armure, c'est le prolongement de la personnalité de Tony Stark, donc il va commencer à s'éclater avec, il va dire youhou, youpi, ce serait vachement cool que ça éclate au grand jour, parce que je suis un flambeur, etc. On voit que les bastons, même s'ils sont efficaces, on sent que c'est pas vraiment le propos du film, et on voit qu'ils en gardent sous la pédale pour les suites, surtout par rapport à ce que sont capables de faire les Japonais au niveau des combats de méca, donc tu te dis il y a des trucs à faire quand même, potentiel qui est pas trop exploité dans le premier, mais on sent que c'est un peu fait exprès aussi. Où j'en étais, oui, un film qui est super fun, qu'il faut voir voilà, pour aller se détendre. C'est pas un héros torturé à la Batman, c'est pas un gars qui va aller dans sa caverne avec des chauves-souris, c'est un mec qui aime le bling bling, qui aime les bagnoles, les femmes, etc. C'est un mec qui est un flambeur, donc voilà, c'est ça qui est fun aussi. Bon, Bruce Wayne a aussi un petit côté agaçant, tu sens qu'il s'éclate pas le mec. Bon, voilà, Tony Stark, c'est l'antithèse de Bruce Wayne, c'est clair. Un truc qui fait plaisir dans le film également, c'est une équipe, le clin d'œil aux fans des comics. Donc on a parlé déjà de Jarvis, on a James Rhodes dans le film qui est le lieutenant-colonel Black, ami de Tony Stark. À un moment donné, il passe devant une armure expérimentale de Tony Stark qu'il n'utilise pas, il dit « Ah, toi mon pote, la prochaine fois que tu fais une virée, je t'accompagne !» Voilà, bon, voilà. Évidemment, l'apparition sans pitanelle de Stan Lee, puisque c'est une adaptation de CBD. On a également, on va pas en parler, mais il faut savoir que il faut absolument, si vous allez voir le film, rester après le générique de fin, car il y a une putain de scène à la fin qui si vous la voyez pas, vous avez pas vu le film. Hein.
Bah ouais.
Donc elle est courte, mais très savoureuse. Voilà. Donc Iron Man, un film qu'on vous conseille chaudement. Film de et avec John Favreau, avec l'excellentissime Robert Downey Jr., Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard, et c'est un film qui est sorti mercredi dernier, donc vous pouvez encore aller le voir. Alors du sport avait un petit bémol sur le film, enfin sur l'exploitation du film en salle.
Bah oui, absolument, hein. Il est diffusé, je crois, dans quatre salles différentes, quatre complexes différents à Toulouse, c'est-à-dire cinq salles. Et on peut pas le voir du tout en VO, comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Mais bon, ça commence à bien faire. Sachant qu'en même temps, par exemple, un film comme le dernier Michael Haneke, Funny Games USA, est visible à Toulouse, soit en VO, soit en version française. Alors bon, on voit bien le distinguo entre cinéma intello et cinéma commercial. Les deux appellations entre guillemets, bien sûr.
Je suis actuellement dans la foule. Les CRS essayent de progresser avec leur lance de pompiers, mais les manifestants viennent de se faire en poussant des voitures en réaction des forces de l'ordre. Vous entendez peut-être le bruit des bombes lacrymogènes. Je crois que...
Savoir, désolé.
Que sera 1968, je ne le prédis pas. Pourtant, c'est vraiment avec confiance que j'envisage, pour les 12 prochains mois, l'existence de notre pays.
Il Il est 7 heures du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge?
Vous versez dans une bouteille une certaine proportion d'essence.
Quelle est la nature réelle du mouvement?
Ensuite, vous continuez avec de l'huile. Comme ceci.
La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysanne.
Et ensuite, vous versez quelques cuillères d'acide sulfurique.
Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, pour le faire la victoire.
Oui, c'est vrai qu'il a chanté Maréchal nous voilà, mais c'était le générique des sports en 68.
Ouais,
voilà.
Ouais. Et en plus, tu vas le faire passer comme étant mon générique, hein, ce qui est absolument faux. Hein. Je tiens à le souligner.
Si, si, pour mai 68. Allez, en braille.
Et c'était Jacqueline Taïeb avant. Un morceau de 68 aussi. Hein.
Voilà, que j'avais oublié de préciser. Donc, il s'appelle 7h du matin.
On parle un peu de télé à présent et tu m'avais dit d'en faire une tartine et tout. Alors bon, je sais pas si je vais tout faire parce que bon, quand même. Ouais. Bon, enfin bon, des séries pas trop. Il y a deux séries inédites cette semaine à la télé et elles sont toutes les deux sur TPS Star dans la même case horaire, à savoir la deuxième partie de soirée. Ce soir et demain soir, on va commencer par ce qui apparaît comme étant le meilleur du lot. C'est demain soir 22h40, ça s'appelle Tell Me You Love Me et c'est sorti sur HBO il y a un petit peu moins d'un an, hein, le début septembre de l'année dernière, et ça raconte les histoires de trois couples d'âge différents qui consultent la même conseillère conjugale pour régler leurs problèmes intimes. Le truc c'est que la série est très osé, c'est ce qui a fait le buzz hein, d'ailleurs sur cette série hein, acte sexuel soi-disant non simulé, coït, sexe en érection, enfin la totale pratiquement on va dire dans cette série hein, qui parle donc des relations et des problèmes de relations qu'il peut y avoir entre différentes personnes qui vivent en couple, qui vivent ensemble. C'est brillamment interprété, ça a obtenu un franc succès hein, sur cette chaîne HBO qui a déjà commandé une seconde saison et ce sera diffusé à partir de demain soir sur TPS Star, 22h40 donc pour cette série qui est quand même moins 16. Ça c'est très rare, hein, à ma connaissance il y avait une autre, c'est deux autres séries qui sont moins 16 du début jusqu'à la fin. C'est Rose bien sûr et Californication, quoique je crois que Californication il y a des épisodes qui sont quand même moins 12. mais là c'est du moins 16 du début jusqu'à la fin, donc ça veut bien dire que c'est explicite. Alors donc au niveau des interprètes, on a Tim Dekey, il n'y a pas tellement d'inconnus on va dire, mais ce sont pas des gens très très connus non plus, hein, ils ont jamais percé trop dans le cinéma non plus. Ce sont des gens de télé. Adam Scott, au niveau des couples, il y a Adam Scott avec Sonia Valger. Adam Scott, on l'a vu dans New York District, dans Veronica Mars. Sonia Valger, elle, on l'a vu dans Les Experts Manhattan, dans Lost, dans Terminator de Sarah Connor Chronicles, c'est-à-dire la série qui n'est pas encore sortie chez nous, je crois. Il y a également l'autre couple, Tim Dekey, qu'on a vu dans Cold Case, dans Earl, dans 4400, et Ali Walker, c'est elle qui est la plus connue du lot quand même.
Profiler. Hein.
Profiler, Caméléon, Sleeper Cell également. Et on a également Ian Somerhalder, qui est apparu dans la première saison de Lost, avec Michelle Bort, qui elle a pu être vue dans Supernatural. Donc tous ces gens-là dans Tell Me You Love Me, qui sera diffusé à partir de demain soir sur TPS Star, 22h40. Donc je rappelle, c'est du moins 16, hein, c'est du hyper heavy, mais paraît que c'est quand même vachement bien fait. Donc c'est à voir. TPS Star qui diffuse également ce soir dans sa case horaire du 22h40. Comme d'habitude, c'est de la sitcom. Flight of the Conchords terminé, eh bien on passe à une autre sitcom qui a l'air assez intéressante, qui a été titré en français pour le meilleur et pour le pire, et qui en version originale s'appelle Until Death, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Enfin bon, c'est un petit peu la fin, hein, du serment, hein, que se livrent les personnes qui sont mariées. Donc deux séries qui parlent à peu près des mêmes choses, les relations de couple. Et là, non, pour le meilleur et pour le pire, c'est plus dans le registre comique. C'est le format sitcom, c'est-à-dire 25 minutes par épisode. C'est interprété par Brad Garrett, hein, qui jouait le rôle de Joe dans la série Everybody Loves Raymond, tout le monde aime Raymond en français, et Joely Fisher. Et ça va raconter donc ces petites histoires de couple et de leurs nouveaux voisins qui viennent d'emménager. Tout ça, c'est ce soir sur TPS Star à 22h40 pour le meilleur et pour le pire. J'allais oublier qu'il y a également au niveau inédit une initiative de Canal+, de sa version fiction et d'un certain Bruno Gassio. Il s'agit d'une trilogie en fait de mini-séries. Dans la première des épisodes de 26 minutes, 6 fois 26 minutes, la première s'appelle Hard, tout simplement. Est une série qui, comme son nom l'indique, navigue dans le milieu du hard. Alors du côté de Canal+, on sait un petit peu ce que c'est. D'ailleurs, Gassio dit que c'est tout à fait normal qu'on sorte une série comme ça sur Canal, vu que c'est nous les premiers qu'on a passé du hard à la télé. Ouais. Et donc cette mini-série passera à partir de vendredi prochain sur Canal+, à partir de 22h55, qui va donc être la case réservée pour ces mini-séries. C'est une trilogie. La première, c'est une série qui s'appelle Hard. La deuxième, ce sera Doom Doom, à partir du 30 mai, donc à la fin du mois. Et après Doom Doom, il y aura En Attendant Demain, à partir du 20 juin. Attendons-nous un petit peu sur cette série qui s'appelle Hard, qui raconte les histoires d'une femme mariée, dont le mari décède, et la femme découvre que son mari tout simplement était producteur dans le monde du X, et donc elle hérite de la boîte de production de son mari, et donc ça a posé quelques petites situations rigolotes. Gassio a confié la réalisation de cette mini-série à Cathy Vernet, qu'il a découvert sur le net, hein, sur ce site qui s'appelle www.lesfilmsalamaison.com, qui avait fait des trucs assez rigolos. Au niveau des interprètes, c'est là que ça peut être assez rigolo, hein. Le personnage principal est interprété par Natasha Lininger. Oh oh! Si, sous le soleil.
Ah oui.
François Vincentelli et Michel Moretti, entre autres. Donc c'est diffusé à partir de vendredi prochain, 22h55, sur Canal+, Hard. Donc je le rappelle, deux épisodes à chaque fois. Donc ça vous fera trois vendredis de Hard. Sinon, au niveau inédit, il y a également Kyle XY ce soir, ou Kyle XY sur M6 à partir de 20h50. Saison 2 inédite de Matt Dallas, alias Kyle XY, quitte sa famille au début de cette saison 2 et va rencontrer Adam Baylin, interprété par John Eddie Peck, qui en fait va lui révéler qui il est vraiment et d'où il vient. Hein, pourquoi il s'appelle XOL? Parce qu'il va rencontrer également XX et il va se rendre compte qu'il vient du centre ZXZ. Ça a l'air un petit peu confus comme ça, mais
il y a des scénaristes qui sont pas fait chier. Hein.
Mais c'est regardable quand même, car Nikki continue dans la série, alors que bon, bah, il quitte la famille, donc la famille, on va la voir un petit peu moins hein, dans cette saison 2. Donc c'est ce soir, il y a 3 épisodes carrément. Sinon, vite fait, je vous en ai pas parlé, ou tu l'avais évoqué, me semble-t-il, Xavier, dans Las Vegas sur TF1 tous les dimanches, pratiquement à partir de 14h15, on en est à la saison 5. Et dans la saison 5, à la fin de la saison 4, James Caan tire sa révérence. Ouais, on a marre, fait chier. Bon, ça va, on a fait le tour, quoi. Et qui vient remplacer, pas le remplacer, mais qui vient poste pour poste hein, dans la série. Mais qui vient prendre sa place, on va dire, en tant que bon acteur relativement connu et tout, Tom Selleck, qui en fait prend la direction du casino hôtel Montecito, tu vois, et il commence à foutre son bordel, quoi, tu vois. Donc c'est assez rigolo. En plus, il fume tout le temps, quoi, ce qui est assez politiquement incorrect pour une série. Hein. Lui, il y va, hein, cigare, vas-y et tout, tranquille, partout, hein. Mais partout, hein. C'est-à-dire normalement, tu sais, aux États-Unis, c'est encore plus strict qu'en France. Oui. Tous les lieux publics, même semi-privés, t'as pas le droit de fumer du tout. Là, lui, tranquille, hein, les doigts dans le nez, à l'aise. Il y a également, je le rappelle, Alliance et Trahison sur TF1 également tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. À 9h20, ne loupez pas General Hospital. Ça pète le feu à fond les manettes et tout. Dans un épisode de Alliance et Trahison, alias General Hospital, il se passe autant de choses que dans 3 semaines de Amour, Gloire et Beauté ou des Feux de l'Amour. Si, c'est pas des conneries, hein. Je te dis, c'est incroyable. Le premier épisode lundi dernier, mais carrément. Tu vois, t'as la scène où tu vois une femme d'âge mûr qui rencontre un couple et qui commence à balancer de grosses vannes avec de grosses allusions sexuelles et tout. Et pendant le même moment et tout, un autre couple trouve le temps de rentrer dans le lit, de faire l'amour et tout, d'en ressortir et tout, tranquille. Et dans le même temps, la fille du mafioso se fait kidnapper. Et il lui rend visite et tout, mais c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Ça pète le feu à fond les manettes. Alliance et Trahison, donc c'est sur TF1 tous les jours à partir de 9h20. Et t'as pas besoin de connaître ce qui s'est passé avant, t'en fous. C'est pas grave, de toute façon, ils sont pas tellement, quoi, que t'es là. Bon, ouais, parce que au générique, en plus, c'est un générique terrible avec au moins une trentaine de noms, tranquille, tu vois. Mais ils donnent juste le prénom des personnages dans la série. Alors, tu vois, et t'as une trentaine comme ça qui défile au fur et à mesure. Allez, je vais vous faire la semaine sur Arte ou les westerns.
La semaine sur Arte, allez.
Alors on fera les westerns. On va prendre le meilleur de chaque. Ce soir sur RTL9 à 20h45, 5 cartes à abattre. Un Henry Hathaway de 68 avec Dean Martin, Robert Mitchum, Inger Stevens, Roddy McDowall et Catherine Justice. Une histoire de vengeance, comme d'habitude, hein, pratiquement dans les westerns. Mais là, bon, c'est Robert Mitchum qui cherche à venger, donc là, faut pas le faire chier, donc fallait pas. Et ce soir également sur Ciné Cinéma Star à 23h25, c'est une curiosité, mais ça peut être intéressant. Hein, je savais pas qu'il avait tourné ce film. Alex Cox, vous avez fait également Sid and Nancy, qui avait fait également Repo Man. Là, c'est Straight to Hell, un western britannique de 87 avec Dick Rude, Cy Richardson, Courtney Love. En 87, attention, hein. Et Joe Strummer. Là, il était vivant encore, là, encore un Joe Strummer. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce soir, 23h25, Straight to Hell de Alex Cox. Mardi prochain, sur Ciné Cinéma Star, 20h45, La Vengeance d'un shérif de Burt Kennedy de 69, avec encore Robert Mitchum. Yo, yo, yo. Et Robert Walker et Angie Dickinson. Jeudi, il y a carrément une soirée western sur Direct 8 avec deux grands films, deux classiques du western que vous avez déjà vu au moins une fois, en principe. Tout d'abord à 20h40, L'Homme de l'Ouest d'Anthony Mann de 58 à Gary Cooper et Julie London et Lee Jacob. Et à 22h30, Nevada Smith de Henry Hathaway avec Steve McQueen, Big Nose, Carl Malden, Brian Keith, Burt Kennedy, Suzanne Pleshette, Ralph Vallon. T'en veux encore? Allez, bon.
J'avais vu aucun des deux.
Ah bah, Nevada Smith, tu vois pas, quand même. Il y a également jeudi prochain en même temps que Direct 8 sur Cinéma Classique à 22h30, 7 secondes en enfer, un John Sturges de 67 avec James Garner, Jason Roberts,
Celui qui a pris la place d'Humphrey Bogart dans le cœur de Lauren Bacall. Et au plonge. Donc, et vendredi prochain également sur Action à 21h, la vallée de la, et celui-là il est bien aussi, quoi. La vallée de la vengeance de Richard Thorpe de 51 avec Brut Lancaster, Robert Walker et Johan Dru. À la semaine sur Arte, vite fait, je vous fais pas tous les trucs. Sachez que ce soir, l'aventure humaine, c'est on va dans les grottes, les hommes préhistoriques, on va voir ce qui se passe du côté de la grotte de Chauvet, Lascaux, et dans des endroits qu'on peut pas visiter. La grotte Chauvet, on peut pas la visiter, donc il y a pas de problème. Mais Lascaux, il y a des endroits qu'on pouvait visiter, il y en a d'autres pas. Mais là, ça va dans les endroits où nous, on peut pas aller, donc c'est intéressant. Ça, c'est ce soir à partir de 21h. Demain, homme au bord de la crise de la nerf sur Arte, c'est la théma avec comme illustration filmique le film Mafia Blues de Harold Ramis. Mais ce qui peut être plus intéressant. Ils disent que c'est merdique, quoi, mais enfin bon, ça peut être plus rigolo, quoi. À 22h25, Metallica dans l'intimité d'un monstre. Alors Metallica sur Arte, déjà, ça vaut le coup, hein. Et c'est un documentaire tourné à l'occasion de l'enregistrement de leur album Saint Anger en 2004, hein, 22h25, donc demain soir, Metallica sur Arte.
Vous venez juste de faire d'ailleurs une interview à propos de Megadeth la semaine dernière dans Prax. Ouais. Qui est le chanteur du premier album de Metallica, Kill 'Em All.
Dave Mustaine, qui s'est barré et tout. Enfin bon,
Bruce, si tu nous écoutes,
c'est une tête de mule, c'est normal, hein. Alors c'est normal, quoi, tu vois.
Ah, mais
lundi, un film de Ken Loach, Just a Kiss. Mardi, le Bréviaire de la haine. Ça, c'est la soirée la plus intéressante. Avec à 21h, Mein Kampf, c'était écrit. Un documentaire donc de 50 minutes sur ce fameux bouquin qui est normalement interdit, qu'on peut pas se procurer, mais que tu peux pratiquement te procurer n'importe où si tu sais te démerder un petit peu, tu vois. À 21h55, La vérité est ailleurs. Non, c'est pas mais c'est la véritable histoire du protocole des sages de Sion. C'est-à-dire l'illustration de ce que Will Eisner avait fait il y a un an, deux ans, qu'on avait chroniqué dans cette émission.
Voilà, sur justement donc s'appelait le testament, je sais plus.
Le protocole des sages de Sion.
Le protocole, voilà. Donc sur ce fameux faux qui a été conçu par les services secrets du tsar de Russie pour dire les juifs, il y a qu'à les buter, ça ira beaucoup mieux.
Raccourcis. Ouais. Et à 23h, l'année dernière à Vichy, où on interroge des gens qui, dans leur jeunesse, eh bien, ont côtoyé les fonctionnaires qui, pendant la collaboration, eh bien, travaillaient à Vichy. Tout ça, donc, c'est sur Arte mardi prochain. Mercredi, les mercredis de l'histoire à 21h, Eretz Israël vers la terre promise, l'histoire de ces pèlerins, enfin pas pèlerins non, mais réfugiés qui sont partis en bateau pour rejoindre la terre promise. Et ce qui peut être plus intéressant, c'est à 21h50, c'est mai 48, la bataille de Jérusalem, et c'est le premier fight entre juifs et arabes sur parce qu'il faut savoir que c'est en 48 que Ben Gurion crée l'État d'Israël avec donc ça peut être intéressant juste pour avoir beaucoup de précisions au niveau de ce qui s'est passé et qu'il y avait encore la tutelle anglaise, c'était assez zarbi, quoi, de toute façon, quoi. Jeudi, un grand film de González Iñárritu, 21 grammes à 21h, avec Penn, Sean de son prénom, Benicio, Del Toro de son nom, Charlotte Gainsbourg, Naomi Watts, suivi à 22h55 de Benny Levy, La Révolution Impossible. C'est un portrait du chef de la gauche prolétarienne. Ouais, rappelle-toi, camarade.
Va te faire foutre, hein.
Ah non, attends, c'est sérieux, là. Et vendredi, sur Arte, à 21h, Le Grand Charles, une rediff, hein, de ce téléfilm en deux parties, hein, qui retrace la vie du Grand Charles. Charles de Gaulle, bien sûr.
Mon héros.
Charles de Gaulle, ça me fait penser, faut que tu me cales le Charles de Gaulle, là, dans le truc. Avril, tu regardes Avril et Charles de Gaulle, quoi. Tu me le cales, s'il te plaît, quoi. Interprété par Bernard Farcy dans le rôle principal, Daniel Lebrun dans celui d'Yvonne, et également Gérard Lartigot et Denis Podalides, vendredi prochain donc sur Arte. Et de ce fait,
ah d'accord, Charles de Gaulle,
ouais, alors tu me le mets, puis tu me mets en lecture, mais c'est les trucs que je vais passer en deuxième tout de suite là maintenant, quoi. J'y pensais plus, quoi, tu vois, merci, quoi. Et à 0h25, comme c'est un téléfilm en deux parties, dans Trax on aura Extreme Movies. Alors bon, c'est pas des films extrêmes et tout, avec des massacres, cannibalisme et tout, non, c'est les films de glisse, ça se passe à Chamonix, festival du film Extreme Movies. Donc il y a également l'interview de Michael Haneke dans Trax vendredi prochain, et un petit sujet sur Klaus Schulz. Oh, putain, on va planer à fond les manettes. Et c'est tout.
Déjà ?
Ouais, je vous ai pas parlé de SoFoot et pourtant... C'est un pur numéro, ça. Spécial Angleterre. Presque que sur l'Angleterre.
Ah là là. Thomas, s'il te plaît, rappelle-moi pour ce numéro spécial Iron Man du supplément week-end. Peux-tu faire le résumé pour nos amis auditeurs malheureux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Donc, pour cette spéciale Iron Man, nous avons eu la fin, suite et fin de la revue de presse du Comic Box Extra numéro 3, Iron Man et les héros high-tech. Nous avons eu un topo sur Iron Man, l'interview d'Adi Granoff, la bande dessinée Iron Man Extremis, un top 5 sur les héros républicains, le chronique du film Iron Man de Jon Favreau et de la série avec du hard, des westerns, des films de glisse. Et là, en route passe, on avait toujours le SoFoot spécial Angleterre.
Nom d'aviseur laser intégré par Wi-Fi. Ils ont loupé tout ça. Heureusement, amis auditeurs, tu peux réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans vos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.tk. Sans accent ni tiré. Alors c'est facile, tu tapes supplément weekend dans Google, MP3 ou FMR si tu veux pour pimenter. Tu tombes de suite. Voire tu vas sur le site internet de la radio et tu tombes déjà sur la chronique d'Iron Man. C'est-il pas génial, Internet ? La suite des programmes sur Radio FMR avec de suite votre quai sportif à 15h Zarma Farid, c'est du reggae, 17h ça c'est de la bonne viande, c'est de la bonne musique, 18h Big Bang, 19h Happy Hour avec les petites olives, 20h de l'électro avec la Cetero Experience, 21h 39 Love c'est du two step et à 23h du rock, du live avec le potager. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et toujours dans notre commémoration de la révolution de droite. Non, allez, je déconne. La semaine prochaine, on parlera de la rubrique Abrac. Voilà. Ciao, bye.
On choisit pas son pays, on choisit pas sa famille, on choisit pas!